Yes, go straight, and then go straight.
Entre les pages. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Entre les pages, votre émission qui parle du monde des livres en Anjou. Et en cette période estivale, je continue mes balades en Anjou. Je ne suis pas allé bien loin aujourd'hui puisque c'est à l'Arboretum d'Angers que je me suis rendu. Ce parc si singulier, il se mérite. C'est un îlot de verdure coincé, et le mot n'est pas trop faible, entre trois boulevards. Pour le protéger un peu des bruits de la circulation, on a utilisé à certains endroits des gabions. L'entrée est très discrète par la rue du château d'Orgemont. Dès qu'on franchit le portail, c'est un voyage vers l'ailleurs. De très grands arbres, des chênes, puis des séquoias qui semblent tout droit sortis du parc Yellowstone, de l'ombre, de la fraîcheur. Le chant des oiseaux d'habitude et des écureuils qui cavalent partout, mais ça c'est d'habitude. Par la chaleur d'aujourd'hui, c'est plutôt seulement les pies qu'on voit. Et dans cet îlot est enchâssé un deuxième jardin, celui de la maison de Gaston Allard, la closerie de la Molévrie. C'est là que j'ai rendez-vous pour vous faire découvrir une bibliothèque très particulière, celle de la Société d'horticulture d'Angers et du Maine-et-Loire. Un trésor discret, mais un trésor auquel il est très facile d'accéder, nous allons l'entendre. Ce sont Christian Hastings et Didier Chambellan, tous les deux bibliothécaires, qui m'ont reçu. Ils m'ont fait faire mes premiers pas dans un monde dont, moi, citadin, j'ignore tout. Bonjour Christian Hastings.
Bonjour.
Bonjour Didier Chambellan.
Bonjour.
Vous êtes les bibliothécaires de la SHA. Pouvez-vous vous présenter en quelques mots, tout d'abord vous, Christian Hastings?
Je suis Christian Hastings, donc je suis responsable de la bibliothèque de la Société d'horticulture d'Angers. J'ai pris mes fonctions à la société en 2021 et je suis là depuis 6 ans déjà. Mais bientôt, je vais donner ma démission pour laisser la place aux autres.
Et vous, Didier Chambellan, qui êtes-vous?
Bonjour. Eh bien, moi, je suis bénévole comme Christian. Je suis membre de la Société d'horticulture. Et dans cette société, je m'occupe des ateliers à propos des beaux livres anciens illustrés que nous avons dans notre bibliothèque.
Et je vois une pile devant vous que nous allons aborder un petit peu plus tard dans la conversation. Vous êtes donc tous les deux bénévoles. J'ai décrit l'endroit dans lequel est installée la bibliothèque de la SHA. Comme je l'ai dit, un îlot dans un îlot. Depuis quand elle est installée à cet endroit?
Alors, elle est installée, au départ, la société a été créée en 1864 avec la fusion du Comis Horticole. Le Comis Horticole avait déjà une bibliothèque et donc la Société d'horticulture en a profité pour avoir tous les livres. Et ensuite, il y a eu les créations de formations des ouvriers et des cadres moyens des différentes professions horticoles. Et au cours des années, c'est constitué des livres pour l'enseignement, essentiellement pour l'enseignement, et par des dons aussi de professionnels. Ensuite, en 1905, Mademoiselle de la Devancey a légué la bibliothèque de son père, qui était aussi un ex-président de la société. Et c'est surtout ce fonds documentaire très important pour la bibliothèque, qui renferme beaucoup de livres, des livres très très vieux, et qui fait la richesse de la bibliothèque. Et ensuite, il y a eu d'autres dons des sociétaires. Et actuellement, nous avons à peu près 4000 livres.
Mais ça répond pas tout à fait à la question que j'ai posée. Depuis quand elle est installée ici, je crois, c'est 1975?
Oui, 1975, oui.
Là, vous venez de faire un panoramique ultra rapide de la bibliothèque, c'est-à-dire qu'on voit qu'elle ne s'est pas qu'elle s'est constituée progressivement par d'abord l'association de deux entités et puis par des dons progressifs. Mais en fait, vous nous donnez une information importante, c'est que elle a contenu au départ des livres d'enseignement parce qu'on y faisait de la formation.
Oui.
C'était la SHA, c'était ce qu'on appelle une société savante.
Oui, puisque la plupart des professionnels envoyaient leurs jeunes se former auprès de la société d'horticulture, qui dispensait des cours le samedi soir et le dimanche matin. Ces cours étaient bénévoles, c'était gratuit.
Mais les gens qui dispensaient ces cours, c'était des professionnels.
C'était des sociétaires, c'était des gens de la société essentiellement, oui.
Quel lien on peut faire entre l'ASHA et Gaston Allard?
Gaston Allard, c'est lui qui a fondé l'Arboretum. Et en fait, le lien, c'est que la société d'horticulture, on a trouvé bien que la société d'horticulture vienne s'installer dans cet Arboretum.
Donc, pour remonter un peu dans l'histoire, donc Gaston Allard était quand même un scientifique, hein. Et c'est lui en fait qui crée ce parc de l'Arboretum.
Oui, hein, oui, tout à fait, oui.
Il a quand même fait un travail sur l'arboriculture. Enfin, il a fait beaucoup de recherches, hein, sur l'arboriculture.
Il a surtout implanté beaucoup d'espèces. Donc dans son parc. Il a fait venir des graines de tout le monde, des plants qu'il a acclimatés. Et il y avait énormément de plantes dans cet arboretum.
Est-ce que il y a dans les plantations qu'a fait Gaston Allard, est-ce qu'il y a encore des arbres aujourd'hui qui datent de l'époque de Gaston Allard?
Tout à fait, oui, oui, il y en a pas mal.
Oui.
Il y a déjà, lorsque vous arrivez, il y a tous les chênes qui sont le long de l'allée. Puis il y a tout un côté aussi qui a été ouvert il n'y a pas si longtemps que ça, où vous avez beaucoup d'arbres, des conifères. Il y avait une collection de conifères. Les marronniers, il a acclimaté les marronniers, les platanes, et beaucoup d'autres plantes aussi.
Les séquoias, c'est lui aussi?
Oui, aussi, oui. Mmh. Oui,
oui. La SHA, c'est au départ, comme on l'a dit tout à l'heure, une société savante qui est composée finalement de professionnels, hein, de gens, de scientifiques. Hein. Cette bibliothèque, on imagine qu'elle était aussi leur outil de travail.
Oui.
Aujourd'hui, la SHA, c'est maintenant une société, mais qui est composée de bénévoles.
Oui.
Est-ce que c'est encore le cas? Est-ce que c'est encore un outil de travail pour les bénévoles de la SHA?
Oui, parce qu'on apprend beaucoup de choses du fait qu'il y a des ateliers de très divers. Et les gens sont intéressés pour apprendre. Par exemple, il y a un atelier de reconnaissance des plantes. Donc, c'est-à-dire que les gens qui venaient à la société d'horticulture, en fait, étaient parrainés par un professionnel. Donc, au départ, il y avait beaucoup de professionnels, et maintenant, il y en a de moins en moins. Et en fait, ce sont surtout des jardiniers qui sont passionnés de leur jardin. Et qui veulent apprendre au niveau des plantes, au niveau de la taille, au niveau de la plantation, des techniques de plantation, enfin un peu toutes les techniques qu'ils peuvent apprendre, quoi.
Là, c'est l'apprentissage, c'est le côté un peu pédagogique et éducatif,
oui,
de la SHA. Moi, ce qui m'intéresse, c'est est-ce que les gens viennent, par exemple, des gens viennent pour consulter ces livres ou pour emprunter ces livres sur des thématiques particulières?
Le problème, c'est qu'il n'y a pas grand monde, justement. C'est un peu décevant, d'ailleurs, mais on ne sait pas pourquoi. Parce qu'ils ne connaissent pas, pourtant, Didier, dans ses ateliers, a fait connaître les vieux livres, et on s'étonne.
Vous étonnez que les gens ne soient peu utilisateurs de l'outil bibliothèque?
Oui, oui, oui.
Et pourtant, vous le maintenez. Pourtant, vous la maintenez en vie. Vous assurez les permanences toutes les semaines. Vous êtes présent pour accueillir les adhérents.
Tout à fait, oui.
Alors, cette bibliothèque, moi, j'en ai fait un peu le tour. Alors, elle a une particularité, cette bibliothèque, mais comme vous l'avez dit, Monsieur Hastings, je pense que ça révèle un peu, ça montre un peu la manière dont elle s'est constituée. Quand on entre, c'est pas comme dans une bibliothèque d'aujourd'hui. Quand on entre dans une bibliothèque, voilà, on a des rayonnages, c'est très très coloré. Ici, c'est pas très très coloré, c'est uniforme. On a des reliures à l'ancienne, on a des étiquettes de marquage à l'ancienne, enfin on a des lettrages dorés pour les titres. Donc on est sur un rapport au livre qui est un rapport qui est plutôt historique, plutôt ancien. Pour vous, Monsieur Hastings, quels sont les livres importants dans cette bibliothèque?
Les livres qui me paraissent importants pour les gens actuellement, c'est plus des livres de vulgarisation. Parce que la plupart des gens, bon, ils ont une méconnaissance des plantes. Et en fait, ils cherchent plutôt des livres trop compliqués. Et des techniques aussi pour cultiver leurs fleurs ou leurs arbres. C'est surtout ça.
Donc c'est plutôt didactique, enfin la recherche de trucs pratiques, en fait, il y a pour vous. Mais en termes, alors moi je dirais plutôt les livres importants, c'est les livres qui vous tiennent à cœur, vous. Quel livre, par exemple, dans cette bibliothèque vous tient particulièrement à cœur?
C'est-à-dire que je m'en occupe pas beaucoup des livres.
Ah, mais vous en occupez pas beaucoup, mais est-ce qu'il y a un livre particulier sur lequel, par exemple, qui vous semble important ou sur lequel vous pourriez attirer notre attention?
Oui, ben il y a le livre sur les jardins, un livre sur l'histoire des jardins qui m'intéresse, oui.
L'histoire des jardins du monde entier ou
non, de d'Angers.
C'est le côté historique qui vous intéresse?
Oui, c'est surtout ça, oui.
Et on parle de quel jardin dans cette...
Alors, il y a le jardin des plantes, il y a le boretum. Il y a le jardin du Mail, il y a encore d'autres jardins de Sourangers, quoi, tous les jardins qu'il y a à Sourangers, la plupart.
C'est un livre qui est récent, ancien?
Non, c'est un livre assez ancien, oui. Oui, puisque c'est un membre de l'association qui l'a fait. Il s'appelle Herbert de la Rousselière.
Dans ce livre, je crois, il me semble, dites-moi si je me trompe, qu'on parle on parle d'André Leroy.
André Leroy, oui, oui.
J'ai peut-être voir avec Didier Chambellan pour aborder cette question des livres plus particulièrement qui sont dans cette bibliothèque.
Faisons une première pause musicale avant de continuer. Thank you. C'était des Baicho de Agua, extrait de l'album The Nearness de Pierrick Menuot et Gaëtan Nico. Vous êtes bien sur Radio G et vous écoutez Entre les Pages. Je suis aujourd'hui à la bibliothèque de la Société d'Horticulture d'Angers et du Maine-et-Loire. Maintenant, nous explorons les trésors de cette bibliothèque avec Monsieur Didier Chambellan.
Alors vous, Didier Chambellan, vous, les livres, ça vous intéresse et les livres anciens vous intéressent?
Oui, en tout cas au niveau de la SHA, j'ai été recruté entre guillemets par le président et le bibliothécaire pour faire un atelier sur les livres anciens. Mm-hmm. Donc l'atelier, c'était pouvoir sortir un peu de cette bibliothèque que vous avez décrite avec toutes ces dorures, que les personnes puissent ouvrir les armoires avec mon aide. Et ensuite, feuilleter les livres de la bibliothèque. Donc, c'est des ateliers, 5 personnes, 6 personnes, et on va dire 3 heures au total, deux ateliers, mmh, tous les ans. Et depuis plusieurs années, donc, d'assez nombreux sociétaires sont venus regarder les livres, les feuilleter, les photographier, et voilà.
Ces ateliers, ils ont le but de faire découvrir le fond de livres qu'il y a dans la bibliothèque.
Ben, le but, c'est aussi de toucher des livres. Ah. De toucher des livres anciens. C'est-à-dire le papier, oui, le papier du XVIIe siècle, ou XVIIIe, mmh, ou XIXe, mmh, n'est pas identique.
Oui.
Ce sont des, pour la plupart de nos livres. Comme a dit Christian, on a eu un don très important d'un ancien président de la SHA, vers 1902, et on a eu la chance d'avoir, c'était un grand collectionneur, d'orchidées, entre autres, de palmiers, de plantes tropicales, et on a la chance d'avoir toute sa bibliothèque de travail. C'est-à-dire, à la fois, des livres qui nous paraissent très anciens, mais des livres de 1850 ou 1860, c'était son époque, mais également tout un tas de documents, comme Christian nous a dit tout à l'heure, sur les orchidées, en anglais, dans différentes langues.
Oui, parce que je voyais dans les rayonnages, il y a une collection de livres en anglais. Alors effectivement, sur les orchidées, hein, une collection de livres en anglais qui est assez impressionnante.
Oui, parce que on peut penser qu'au 19e siècle, les pépinéristes, les horticulteurs anglais avaient, un savoir qu'ils ont mis en livre, en écrit pour. Et donc, au niveau européen, on verra ça tout à l'heure, les langues ont varié. On verra tout à l'heure des livres qui étaient en latin, qui étaient le mode de communication à une époque. On verra des livres en anglais, qui était aussi au 19e siècle un mode de communication assez facile dans l'Europe. Et voilà, donc on a une bibliothèque avec beaucoup de livres anglais.
Puisque vous êtes plus attaché, alors vous l'avez dit, vous êtes attaché aux livres, vous êtes attaché aux livres anciens. Est-ce que vous pouvez me dire, je ne sais pas si vous le savez, quel est le livre le plus ancien de cette bibliothèque?
Alors il y a un petit livre, c'est pas un livre que je présente. Mais il y a un livre de on va dire 1560. L'essentiel, là je vous montrerai un autre livre du 16e siècle, si vous, oui, voulez, tout à l'heure. Mm-hmm. Mais l'essentiel, c'est vraiment des très 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 beaux livres qui font le fond de cette bibliothèque ancienne, de cette donation. Ce sont des livres du 19e.
Malgré tout, moi je suis curieux quand même, parce que le travail sur les plantes, la recherche, les scientifiques qui sont intéressés aux plantes, ils ont traversé les siècles. On a publié quand même très tôt des manuels, des livres scientifiques là-dessus. C'est pour ça que moi je suis attaché, quand je dis quel est le plus ancien livre et que vous me dites, oh, 1560, 1570, bon ben moi je trouve que c'est plutôt, même s'il n'y en a qu'un, dites-vous bien que dans la bibliothèque du château de Serrant, le livre le plus ancien c'est 1511. Donc, vous rivalisez quand même avec la bibliothèque du château de Serrant. Et là, sous votre main, il y a un livre qui est pas très grand, qui qui a l'air quand même assez usé. Alors, c'est quoi ce livre?
Écoutez, c'est peut-être le livre préféré que j'ai dans la bibliothèque.
Ça m'intéresse. C'est quoi?
Alors, c'est un certain monsieur Bohun, qui était protestant, avec toute l'histoire du protestantisme et des difficultés religieuses de l'époque. Donc, il est de 1598.
Ah.
Il est d'une modernité. Alors, il est en latin, avec une écriture un petit peu gothique.
Magnifique.
Et il est d'une très grande modernité parce que il est autour d'une fontaine. C'est la fontaine de Bohun VI. C'est dans le Württemberg. Et donc, il va décrire tout ce qui est autour de la fontaine. Alors, il va décrire les pierres qu'il a fouillé autour de la fontaine, et c'est pratiquement le livre le plus ancien décrivant des fossiles, décrivant des pierres. Ensuite, il a décrit tout ce qu'il y avait autour, donc on va voir des pommiers, etc. Ensuite, il va nous montrer... alors là, vous avez un coin magnifique, vous voyez un petit peu, alors ce sont des gravures sur bois.
Ce sont des gravures, hein.
Des gravures sur bois.
Oui,
avec, voilà. Et à la fin, il y a des insectes, voilà. Donc, je trouve que c'est très moderne, c'est-à-dire qu'il se poste à une fontaine, et puis il décrit tout ce qu'il voit tout autour, au niveau minéral, au niveau plantes, au niveau assez, comme je disais.
Et avec, de toute évidence, d'après ce que j'arrive à distinguer, alors c'est magnifique, hein, c'est vraiment magnifique, et puis je peux le toucher, ça c'est fou.
Si vous adhérez à Sacha, vous participez à l'atelier, hein, aucun problème, je vous laisse qu'il office.
C'est un livre, alors, il paye pas de mine, hein, il a la cote 3501. Quand je dis qu'il paye pas de mine, c'est qu'il est usé, quoi. Il a vécu. Il est tamponné, il est magnifique. Donc ça, c'est vous, ça c'est votre livre, quoi. C'est votre livre préféré. Et je vous comprends parce que quand je vois ces gravures, qui ne sont que des gravures en noir et blanc, elles ne sont pas colorées, elles ne sont pas peintes, ce ne sont que des gravures en noir et blanc. C'est vraiment extraordinaire. À nouveau, on est toujours surpris par le détail, la capacité des graveurs à l'époque de pour représenter. Donc ça, c'était un des livres qui est contenu. Donc toute personne qui vous, alors on explique, on viendra à la fin de l'émission sur comment on peut accéder à cette bibliothèque. On en parlera. Mais voilà, ça c'est un livre qu'on peut voir. Quels autres livres? Alors là, vous avez à main droite là, vous avez un livre vert. Qu'est-ce que c'est que ce livre vert?
Alors ça, c'est aussi la richesse de notre bibliothèque. Ce sont des revues.
Ah oui, ça c'est intéressant.
Et
ça,
là, c'est une revue, on a la chance d'avoir les premiers numéros de cette revue, une revue anglaise, puisque ça faisait partie de la bibliothèque du donateur, jusqu'à sa mort. Donc, reliure, c'est 1793. Ça s'appelle le Curtis.
1793.
Ce sont des livres magnifiques, avec des gravures. Ah. Alors là, on est dans par rapport à la gravure en bois, là, on est sur des gravures qui sont colorées et reprises ensuite à la main.
Oui. C'était la technique de l'époque.
C'est aquarellé.
Oui.
Et donc, vous pouvez le.
Ah ben. Je vais me précipiter.
Une très belle préface que je proposais à Christian de lire, mais c'est peut-être un petit peu trop long. Oui, mais vous-même, vous pouvez lire la préface.
J'ai pas me coller à l'anglais là tout de suite. Là, je me sens pas d'attaque. Alors là, j'ai sous les yeux un livre. Alors, je tiens dans mes mains un livre. Donc, qui est une compilation de revues avec des gravures. C'est pas extraordinaire, c'est sublime. Moi, je connais pas les plantes, donc je donnerai pas de nom comme ça. J'imagine que le nom est en latin dessus, mais c'est magnifique. Des gravures en plus pleines pages, bien sûr, hein, parce que ce serait quand même dommage de pas se, avec des couleurs qui n'ont pas bougé, de toute évidence, pas bougé d'un pouce. Amaryllis, là, je vois l'Amaryllis formosissima. J'ai réussi à lire le nom. Là, j'ai la Dianthus chinensis, China ophidia, pink. Ça ressemble à un œillet. Ça serait un œillet que je me tromperais pas beaucoup. C'est magnifique. C'est ça, vous m'avez dit, 18e siècle.
Oui, c'est le premier numéro. Et on a la collection jusqu'en 1902. D'ailleurs, cette revue continue à exister toujours actuellement. Mais notre collection nous s'arrête à la mort de Monsieur de la Devancey.
C'est fou, quoi. C'est fou, complètement. Oh là 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 là. Ça, c'est un numéro.
C'est le premier numéro, oui.
Ça, c'est le premier numéro. Alors, pour qu'on se fasse une idée, le premier numéro faisait la bagatelle de, on a du mal à voir, c'est pas paginé, mais je pense qu'on doit être du côté des 250 pages, quoi. Oui. Une revue qui faisait la bagatelle de 250 pages, écrit pas gros, mais alors avec ses illustrations, c'est le rêve de Géranium Reichardi.
Alors les gravures sont de Fitch, ouais. qui était très très célèbre, ouais. un graveur anglais. Je connais assez mal l'histoire de cette revue, mais je pense que c'était un périodique. Et là, c'est sans doute des différents périodiques qui sont
réunis,
reliés par année.
Ben oui, parce qu'on n'a pas les crédits initiaux et en fin d'album, de livre. Je reviens pas d'avoir ça entre les mains. Et la dernière image, c'est l'hélébore, une magnifique hélébore. Magnifique hélébore. Vraiment, c'est là, donc ça, c'est encore, merci de m'avoir présenté.
C'est un vrai
ça.
Trésor, hein.
Je veux bien le croire.
Une nouvelle pause musicale, le temps pour monsieur Didier Chambellan de sortir un nouveau livre.
I don't know what
Vous venez d'écouter IDK par le groupe ODA. Je suis toujours dans la bibliothèque de la SHA que nous explorons. Et ce n'est que sur Radio G, fréquence 101.5.
On continue à votre main droite, il y a un livre marron toujours aussi usé.
Alors ça, c'est quoi ça? Attendez, qu'est-ce que je vous ai sorti aujourd'hui? Vous qui aimez l'architecture, je crois savoir que vous aimez l'architecture.
Oui, tout à fait.
Et bien spécialement pour vous, c'est le recueil des jardins anglais et chinois composé par le sieur Panseron, architecte, professeur d'architecture, ancien professeur de dessin. 1783.
Oh là là.
Alors là, il y a des plans sublimes. Plans sublimes. Je vais avoir peut-être besoin d'un peu d'aide pour les ouvrir.
Alors là, j'ai sous les yeux, pour les gens qui utilisent des guides, dans les guides, il y a souvent des cartes ou des plans. Eh bien là, c'est le cas. Il y a des cartes là. Et là, on vient de déployer une carte. Qui se déploie quand même sur un grand format. Disposition générale des jardins anglois et chinois. Donc c'est un plan de base, on pourrait imaginer un plan de base en couleur, les couleurs vertes, du pourpre. Enfin c'est même pas magnifique quoi, c'est voilà, je reste sidéré par ça. Donc là, on est au 18e siècle toujours. On va regarder une autre carte quand même. On va pas se priver. Je suis venu quand même pour ça. Je vais tourner d'une page. Je suis curieux de voir. Ah ouais. Oh là là, ce sont que des plans de jardin. Oh, c'est étonnant. Et je peux le toucher. Vous imaginez, vous qui m'écoutez, je suis en train de toucher un livre du 18e siècle et qui est peint. C'est magnifique. C'est étonnant. Avec des échelles. Enfin, il y a des échelles. Il y a des modèles de jardins qui sont dessinés. Alors je comprends que ça soit passionnant. Notion générale pour la distribution des jardins anglois et chinois. J'imagine que c'est un manuel. Enfin, je pense que c'est un manuel pour les personnes qui avaient des grandes propriétés pour dessiner leur jardin, concevoir leur jardin avec différents modèles. C'est étonnant. Enfin, c'est vraiment étonnant. On va redéplier une nouvelle carte. Ah ouais, c'est étonnant. Étonnant. Bon, ben, en fait, j'étais venu pour voir ça et je vois ça. En fait, c'était ce que je pensais que je pourrais voir et vous me le montrez, c'est magnifique. On continue notre visite parce que je suis vraiment... là, ça serait dommage de... Alors, juste, vous avez aussi sorti des rayonnages une Bible, une grosse Bible. Voilà. Ça, là, voilà, celui-ci.
Ah.
Alors, celui-ci, c'est, quand je dis que c'est une Bible, il doit faire, je sais pas.
Vous connaissiez déjà?
Pas du tout. Pas du tout.
Que je vous l'ouvre. À l'endroit.
Oui.
Alors là, ça s'appelle Les Roses.
Ah.
Et c'est Les Roses redoutées. C'est un livre célébrissime. Donc, c'est de 1724. Alors, il est divisé en quatre parties, les roses sauvages, les roses anciennes, les roses contemporaines. Et Monsieur Redouté a été le professeur de dessin de botanique de Marie-Antoinette, de Joséphine de Beauharnais et de Marie-Louise, entre autres. Il a suivi, et ensuite il a été nommé au muséum après la Révolution.
Après.
Alors là, c'est une édition inuite. C'est la taille du livre. C'est une très très belle, très 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 belle édition.
Oui.
Il existe ce même livre en in-folio, c'est-à-dire une taille un peu plus grande et qui est très 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 recherchée.
Alors là, à nouveau, hein, on a des. C'est juste. Je m'assure d'une chose parce que c'est important de voir ça. Voilà. C'est un livre avec donc pleine page des gravures, hein, à nouveau colorées. Et comme il se doit pour les protéger, ben on a une feuille de papier de soie qui recouvre la gravure pour la protéger de la page qui la suit, pour pas qu'elle soit abîmée par l'encre. Et comme on peut le faire sur les livres d'art aujourd'hui, c'est alors j'imagine le travail de reliure qu'il y a derrière ça. C'est étonnant. C'est étonnant, c'est magique, quoi. Ça donne envie de cultiver des roses, en fait, hein, finalement.
Alors, c'est un livre qui est relié. Il y a eu 40 livraisons parce que le coût de fabrication est énorme.
Oui, ben j'imagine.
Et donc il y a une livraison, les gens payaient leur voilà, ouais. Et ce qui permettait d'imprimer une deuxième livraison, ouais. Etc. Ouais. Donc ce côté livre, c'est vraiment la reliure. Hein. Ouais. Autrement, c'était des petits feuillets,
ouais.
Souvent peut-être une description de rose avec une gravure.
Alors, à nouveau, pour décrire l'objet, quand j'ai parlé de Bible, ça ressemble, enfin, ça serait plutôt même parce que des Bibles, j'en connais. Là, on est vraiment devant presque une encyclopédie qui, à nouveau, il n'y a pas la pagination, donc on ne sait pas combien il y a de pages, mais on doit tourner autour de 500, 600 pages facilement. C'est un livre qui pèse, 1,8 kg, 2 kg facilement. C'est magnifique et il est dans un état de conservation. Tous les livres que vous m'avez présentés, au-delà des couvertures qui sont un petit peu, abîmés parce qu'ils ont été manipulés de toute évidence, mais c'est des livres qui sont dans des états de conservation étonnants. Je vous remercie du cadeau que vous me faites là. Hein. Là, on était dans les formats de poche, quoi, on va dire. Hein. On va passer dans les formats plus de poche. Là, on est vraiment dans des formats gigantesques. Là, c'est des livres. Alors, ce grand, très grand livre, c'est quoi?
Alors là, c'est un très 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 beau livre. C'est qui s'appelle le Roscoe, du nom de l'éditeur. On va mettre ça de côté, mais c'est pas très très gênant.
Alors, redites, c'est le
Roscoe. Alors, c'est 1828, il y en a 500 exemplaires, et c'est les plantes du jardin botanique d'une ville anglaise qui va me revenir, que je ne me rappelle plus exactement. Et voilà, donc c'est... Il y a la première partie, c'est sur les canards. Et la deuxième partie, c'est sur une variété d'une famille, ça c'est encore les canards. Alors pareil, hein, ce sont des gravures peintes et retouchées, aquarellées.
Oui, alors qu'on imagine bien, le livre doit faire en hauteur 60 cm, pas loin de 60 cm, en largeur 45 cm. Ça c'est déjà la taille, donc on imagine que pour le lire, on peut pas le lire dans son lit le soir... Les gravures sont pleines pages. Les couleurs sont parfaites. Elles n'ont pas bougé, de toute évidence, elles n'ont pas bougé. Elles sont effectivement, on voit bien qu'elles sont aquarellées, c'est-à-dire qu'elles ont été reprises pour garder, donner toute la dynamique de la plante. Et c'est fait, comme on le voit dans les herbiers, on a tous les détails de la plante. Et je pense qu'aujourd'hui encore, cette illustration sert pour identifier une plante comme on pouvait le faire il y a 200 ans. Et puis, il est en anglais. La typographie est magnifique. Quand on le lit, moi je suis à un mètre à peu près, je peux lire la page sans aucune difficulté. L'interlignage est juste ce qu'il faut. La longueur des lignes est parfaite. Enfin, c'est un travail, mais superbe. Enfin, vraiment superbe. Voilà. Et je vous regarde tourner les pages d'un grand geste.
Alors, je peux vous donner une petite anecdote sur ce livre.
Si oui, tout à fait, oui.
Lors d'un atelier, on a fait un atelier un petit peu inhabituel. C'est un habituel, je suis à la page des édiciums, c'est ce que je cherchais. Et c'était des descendants de la donation. C'est-à-dire qu'il y a une personne qui fait partie de l'association de la SHA et qui avait invité d'autres descendants du donateur. Et on tournait les pages de ce livre et tout d'un coup, ils ont... dit, un édicium, c'est exactement ce qu'on a encore dans la serre depuis au moins les années 1900. C'est-à-dire qu'il avait construit monsieur Dadevance avait une superbe serre, qui est actuellement vide, il n'y a qu'une plante et il y a un édicium. Et la famille a dit, on reconnaît la plante. Et ça a un parfum sublime.
Ce qui montre bien que le côté scientifique du travail, c'est-à-dire que, et c'est pour ça que on en parlera aussi. Oh là là,
ah, ces édicium.
Faut arrêter de tourner les pages. Moi, je vais pas me. C'est étonnant. Étonnant, avec les états de la plante, on a les différents états de la plante.
Je pense que c'est le plus beau livre qu'on a dans ma bibliothèque.
Donc
que je vous présente. Là.
Oui, ben je veux bien le croire, mais je non, c'est parce que c'est là où c'est important, c'est-à-dire que ces livres ont une valeur d'enseignement éducative, c'est-à-dire qu'on y apprend des choses et qu'aujourd'hui, comme vous le dites, la famille retrouve un édicium. C'est-à-dire que l'édicium qui a été dessiné il y a presque 200 ans, eh ben, il est toujours l'édicium d'aujourd'hui. Voilà. Donc ça, ça fait partie. Là, c'est les livres monumentaux. Enfin, vraiment monumentaux. Et puis, il y en a encore un en dessous. Alors, le temps de le refermer, parce que ça se referme pas comme un livre de poche. C'est moi qui fais les gestes pour pas qu'on l'abîme.
On va mettre la couverture. Voilà. On va le refermer.
Alors, les velcros, ils sont pas de l'époque. Hein. Parce que pour le tenir fermé, bah oui, pour le protéger surtout, il faut prendre des précautions.
Pour le pousser. Voilà.
Et si on prenait une respiration musicale maintenant ? C'était Teamwork, un extrait de la BO de la série Winter Palace, composée par Tilassine. Vous êtes bien sur Radio G. Retournons dans la bibliothèque de la SHA, en compagnie de Christian Hastings et Didier Chambellan.
Ce que je vous présente là, que je regarde... Parce que Alors là, c'est un livre sur les orchidées.
Donc on a déjà parlé tout
un
à l'heure.
Un livre anglais également.
Ah, oui.
Je crois que c'est la couronne d'orchidées. C'est une traduction. Certum orchidaceum. Alors c'est un livre de Lindley qui était à la fois botaniste, à la fois dessinateur, à la fois graveur. Et donc c'est voilà, des orchidées. Alors nous avons donc c'est un collectionneur d'orchidées, Monsieur Dadevancet. Donc on a beaucoup de livres. Là, je vous en présente un. J'en ai peut-être sorti un deuxième. On a beaucoup de livres sur les orchidées du 19e siècle. Pareil, repeint à la main.
Alors là, le livre, ce livre-là particulièrement, donc. C'est un livre sur les orchidées qui est en anglais. Alors, il a, par rapport au livre précédent, juste, je voudrais terner la page là. C'est écrit un peu plus petit. Je fais pas une fixation sur l'écriture, hein, mais chaque page qu'on tourne, c'est comment dire ça ? C'est une jubilation des yeux. Parce que on est face à une plante à nouveau dessinée, je pense, au plus près de la réalité. Les couleurs sont lumineuses, sont On reconnaît à nouveau la plante parfaitement. Le livre est en parfait état. Il y a quelques piqûres qui sont liées à l'humidité, mais le temps a passé, bien entendu. C'est pas très grave. Il est en parfait état de conservation. Voilà, quelqu'un qui s'intéresse aux orchidées retrouverait, et qui parle anglais, retrouverait beaucoup de choses là-dedans.
Ce sont des lithographies. Hein. Oui. Contrairement à tout à l'heure, on regardait des gravures. Ça, ce sont des lithographies.
C'est un voyage magnifique. Enfin, on imagine le temps qui a été consacré à dessiner. Alors, à nouveau, la taille du volume, elle est aussi presque aussi importante que le précédent. C'est éblouissant. Là, on était dans le domaine des orchidées. En dessous, vous avez encore sorti un livre. Ah là, oui. Oui, mais on pourrait ne pas s'arrêter de tourner les pages, en fait. Donc, en dessous, on a, alors, beaucoup plus petit, celui-là.
Vernes orchideus plantes. Il y a 4 volumes.
Oui.
Le quatrième, là, je vous présente le premier. Le quatrième est rarissime parce que il a été fait un peu plus tardivement. Il y a très peu d'exemplaires. Alors, Warner, c'est l'époque de Queen Victoria, hein, c'est des livres victoriens, qui est un petit peu plus tardif, et le mode, voilà, des gravures.
À nouveau, des couleurs qui sont restées impeccables. Alors, ce qui est étonnant, c'est que là, on est sur la page des Vanda Insignis. Alors, très honnêtement, je ne sais pas ce que c'est, mais il y a quelqu'un qui a écrit quelque chose à côté. Donc c'est écrit très légèrement, mais quand même, il y a quelqu'un qui a écrit quelque chose à la main, juste à côté.
Est tricotor insignis var plantab.
Voilà. Donc le respect du haut livre est pas tout à fait le même, parce que c'est pas grave. Voilà, je continue à tourner des pages. Doré sur tranche, bien entendu. C'est un éblouissement. Chaque fois qu'on découvre une des gravures, c'est un éblouissement. C'est un rêve. J'en reviens pas. Voilà. Encore. Donc là, c'était un livre sur les orchidées. Qu'avez-vous d'autre à nous présenter? Y a-t-il d'autres choses où on a fait un peu le tour de, où ça donne un peu une idée quand même de la richesse de cette bibliothèque?
On a aussi, du fait de l'historique de SHA, beaucoup de livres de pomologie, de très très beaux livres, oui. Également. Là, je vous ai plutôt centré sur à la fois des gravures sur bois, mm-hmm. des gravures,
oui.
Des lithographies,
oui.
Et puis présenter quelques ouvrages de très riches collection sur les orchidées que nous avons.
Ça donne effectivement une idée, alors ça donne une double idée. Celle d'abord de la richesse de la collection que vous avez, qui est à mes yeux étonnante, et puis de leur accessibilité. Comme je viens de le dire, ces livres, on les prend dans les mains, on peut les ouvrir, on peut tourner les pages, on peut les lire, ils sont en latin, ils sont en anglais, d'autres sont en français, mais ils sont donc véritablement accessibles aux personnes qui vont les utiliser. Est-ce que les connaissances qui sont réunies ici sont toujours d'actualité, ou alors est-ce qu'elles sont obsolètes?
Vous parlez de connaissances, si c'est moi qui réponds, Christian, tu compléteras. Gravure de ces livres ne peuvent pas être obsolètes, parce que c'est de l'art. C'est de l'art. Avant tout, c'est de l'art. Après, les nomenclatures évoluent. Donc, il faut translater, si je peux, c'est le terme, mais le bon terme, translater des catégorisations du 17e, 18e, 19e siècle, avec la révolution de Linné, entre autres, avec maintenant on va dire, la génétique, hein, puisque tout est revu actuellement, par les gènes.
Déjà, je vous ai pas forcé à le faire, mais vous avez cité Linné. On ne peut pas ne pas citer Linné quand on parle de science, quand on parle de plantes, hein, et de classement, parce que Linné est à l'origine du classement des espèces, alors qu'elles soient animales, enfin de la méthode de classement des espèces. Donc ça, c'est important. Et En vous écoutant à l'instant, après avoir regardé ce livre, je me dis, mais aujourd'hui, donc, quand on publie un livre d'horticulture, on le publie avec des photos. Et en fait, si on prend un livre d'horticulture d'il y a 30 ans avec des photos, elles paraissent vieilles. Elles paraissent appauvries. Là, on vient de voir des gravures qui ont 200 ans et qui restent d'une modernité quasiment impressionnante. Ça, c'est la bibliothèque. Mais une bibliothèque, logiquement, ça vit. Même si, comme vous l'avez dit, Monsieur Hastings, vous aimeriez qu'il y ait plus de fréquentation.
Oui, bien sûr, oui.
Ouais. Oui. Mais c'est la problématique de toutes les bibliothécaires, hein, la fréquentation.
Oui.
Hein.
Oui.
Je ne veux pas vous inquiéter plus que ça.
Oui.
Mais est-ce qu'il y a est-ce que vous avez une stratégie ou une politique d'enrichissement du fonds de la bibliothèque? Est-ce que vous faites acquéreur? Est-ce que vous achetez des livres?
Oui, bien sûr. Oui. Nous avons des conférences tous les mois.
Mm-hmm.
Et en général, si le conférencier en fait écrit des livres, on lui achète les livres.
Mm-hmm.
Et autrement, on a le souci aussi de tout ce qui est nouveau au niveau des livres, notamment dans tout ce qui est lutte biologique et les méthodes nouvelles pour lutter contre les parasites. On a des nouveaux livres qu'on achète. À chaque fois qu'il en paraît. Hein.
Mmh. Donc, il y a une actualité.
Oui.
Vous suivez l'actualité.
Oui, oui, oui.
Ça, c'est important parce que les personnes, on terminera l'émission là-dessus, bien évidemment. Mais vous avez la nécessité donc de vous tenir à jour. Est-ce que il y a un ou des livres que vous aimeriez avoir dans cette bibliothèque?
Actuellement, il y a un livre sur les roses. J'ai essayé de le trouver à la FNAC, mais il n'avait pas. Et on va le rechercher ailleurs, mais
oui.
Pour le moment, on en a plein de livres sur les roses, mais il vient de paraître ce livre-là. Et d'après les gens qui viennent à la bibliothèque, c'est eux qui vont parler de ce livre-là. On va sans doute l'acheter, oui.
Venons maintenant aux modalités pratiques. On l'a dit, cette bibliothèque, c'est la bibliothèque de la société, de la SHA, la Société d'Horticulture d'Angers et du Maine-et-Loire. Pour accéder à cette bibliothèque, il faut être adhérent de la SHA.
Oui.
Hein, c'est
oui.
Étape importante.
Oui.
Le prix de l'adhésion.
Le prix de l'adhésion, en fait, c'est l'adhésion annuelle, vous voulez dire. Le prix pour une personne, c'est 30 euros.
30 euros. Alors, j'insiste là-dessus. 30 euros.
30 euros, et pour un couple, c'est 50 euros.
Pour 30 euros, on a accès à cette bibliothèque, mais pas que cette bibliothèque.
Non, il y a accès à toutes les activités, bien entendu.
Mmh.
Les visites de jardin, toutes les activités que fait le SHA.
Cette bibliothèque, alors, pour des raisons, vous êtes bénévole et vous n'avez pas tout le temps disponible, elle est ouverte le jeudi.
Jeudi après-midi, oui. De 14h30 à 17h.
Et c'est vous-même, si les personnes veulent se déplacer, c'est vous-même qui les accueillez.
Oui. J'ai deux aides autrement.
Oui.
J'ai une aide bibliothécaire et autrement une adjointe.
D'accord. Donc il y a du personnel pour accueillir le public. Autre question importante. On peut venir consulter les livres. Est-ce qu'on peut les sortir? Est-ce qu'on peut les emprunter?
On peut emprunter tous les livres qui ont trait à la vulgarisation, mais pas les beaux livres, non.
Pas les livres historiques.
Non.
Les livres historiques, on peut les consulter. On peut les consulter sur place.
Oui, on peut les regarder, mais encore que tous les livres que vous avez vus ne sont pas ouverts à n'importe quel public. En général, il faut mieux passer par un atelier.
Oui. Oui,
je confirme, les vieux livres qu'on a vus tout à l'heure sont consultables avec l'atelier.
Dans le cadre de l'atelier. Mis. D'accord. Dans le cadre de l'atelier. Donc, je suis un privilégié.
En quelque sorte.
Oui, 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 oui.
Pour rappeler un peu les modalités pratiques. Donc, on était aujourd'hui dans la bibliothèque de la Société d'Horticulture d'Angers et du Maine-et-Loire. On peut accéder à ces livres, sauf les beaux livres, mais les beaux livres, il suffit de s'inscrire à l'atelier qui est animé par Monsieur Chambellan. On peut venir consulter, voire emprunter les livres, c'est le jeudi après-midi. L'adhésion individuelle à la bibliothèque, c'est 30 euros. Honnêtement, si je compare par rapport à d'autres adhésions à la bibliothèque de d'Angers ou autre, le prix est pas phénoménal par rapport à ce que on peut trouver dans cette bibliothèque. Dans la SHA, on a aussi des ateliers, des visites de jardin, des ateliers thématiques. Enfin, on retrouve toute cette activité d'une société horticole, en fait, hein, tout bonnement. Mmh. Et je pense que beaucoup de gens, aujourd'hui, avec les changements climatiques, doivent être en quête de conseils, d'informations pour réussir à surmonter et à garder un jardin agréable. Je vais vous remercier de m'avoir accueilli, Monsieur Hastings, Monsieur Chambellan. Je vous remercie de votre accueil dans ce lieu un peu frais. C'était le bon lieu en fait aujourd'hui pour cette émission. Je vous remercie. Je vous souhaite une bonne journée.
Merci.
Au revoir.
Au revoir.
Encore une fois, je remercie Christian Hastings et Didier Chambellan de la Société d'horticulture d'Angers et du Maine-et-Loire pour leur accueil. Au cours de l'émission, vous avez entendu des baïcho, des agua par Pierrick Menuot et Gaëtan Nico, Ideka par Odea et Teamwork par Tilacine. Vous retrouverez toutes les informations et tous les liens relatifs à cette émission sur la page de Entre les Pages sur le site de Radio G à la date de l'émission. Le prochain rendez-vous, ce sera le mercredi 13 août à 17h et je vous emmène dans une bibliothèque vraiment très particulière, la bibliothèque sonore de Segré. Dans quelques instants, ce sera le journal de 18h de RFI. Je vous souhaite une excellente soirée et maintenant...
In 500 meters, go straight and then go straight.
Générique.